Mais d'abord, c'est la revue de presse. Avec Bruno Faure. Bonjour Bruno.
Bonjour Anthony, bonjour à tous.
Interdiction d'évoquer ce matin le second tour des départementales, c'est la règle. Alors à la une ce samedi, une autre élection au Nigeria.
Avec un reportage édifiant dans Libération pour illustrer les profondes divisions religieuses qui mettent ce scrutin sous tension. L'envoyé spécial de Libé s'est rendu dans un quartier d'Abuja, la capitale fédérale, Warou. Autrefois un petit village tranquille, autrefois rural, aujourd'hui un bidonville crasseux, les ordures qui débordent, pas d'eau, l'école est fermée parce que les instituteurs ont déserté. Les habitants s'appellent eux-mêmes les indigènes d'Abuja. Et sur les murs délabrés de Warou, des affiches du parti au pouvoir, pas celles de l'opposant musulman. Ici, la majorité est chrétienne. Libération cite un jeune ébéniste du village. Les musulmans sont violents. Quand ils étaient au pouvoir, ils ont volé tout l'argent du pétrole. Les musulmans de Warou, eux, sont discrets. Ils craignent les représailles. Le professeur de l'école coranique raconte comment sa communauté est montrée du doigt. « Vous êtes tous Boko Haram », lui disent les chrétiens, sur la porte de la madrassa, cette inscription en grosses lettres blanches. Ici, on enseigne l'école occidentale.
Les journaux français focalisés ce matin encore sur le crash de l'Airbus A320 dans les Alpes. Les détails sur la personnalité du copilote incriminé.
Hier, Andreas Lubitz était montré souriant en touriste devant un pont de San Francisco. Aujourd'hui, il est en tenue de coureur à pied, l'une de ses passions avec le bowling et le vol à voile. Les photos le montrent, le regard dans le vide. Le Monde se penche sur ses failles cachées. Son histoire avant le crash serait d'une banalité désespérante. Les collègues du jeune homme, racontent Le Figaro, le surnommaient Andy la tomate à cause de ses débuts comme steward. Justement, son ex-petite amie, une hôtesse de l'air, parle dans le journal allemand Bild, très choquée après le drame. Elle raconte qu'une phrase lui est revenue en mémoire. Andreas Lubitz lui aurait dit qu'un jour il ferait quelque chose qui allait changer tout le système. Tout le monde connaîtra son nom et s'en souviendra. De ce point de vue, Anthony, on peut dire que c'est assez réussi. Bild, qui a eu accès à son dossier médical, affirme qu'en 2009, il avait subi un traitement psychiatrique. A-t-il tout simplement eu peur de perdre son emploi à la Lufthansa? Il a caché des arrêts maladie retrouvés chez lui, déchirés. Andreas Lubitz, dissimulateur de haut vol, on appréciera ou non ce jeu de mots aérien dans Libération.
Et au-delà de Lubitz, beaucoup d'interrogations encore dans la presse sur la portée de cette catastrophe.
Qui est responsable? Pouvait-on empêcher un tel drame? Faut-il changer les procédures? Renforcer les contrôles médicaux? Les questions se bousculent, nous dit Jérôme Glaise dans le Maine Libre. La plus immédiate pour toute personne qui confie son destin à un professionnel, quel qu'il soit, est de savoir s'il peut le faire en toute confiance. La chute de l'avion a inversé toutes les normes, ajoutent les dernières nouvelles d'Alsace. Aux antiques pleureuses vêtues de noir ont succédé les blouses blanches des psychologues. Pas de débordement, de la fluidité dans le malheur. La mort de Camille Muffa et de Florence Artaud est déjà loin, disent les dernières nouvelles d'Alsace. Les victimes du musée tunisien aussi, sous l'œil des caméras, le deuil est devenu clinique.
Après l'attentat du Bardo précisément, et à la veille d'une marche contre le terrorisme à Tunis, les musées s'organisent face aux risques terroristes.
Le journal Le Monde publie une longue enquête avec la photo d'une longue file d'attente devant le centre Pompidou à Paris. La peur est une réalité. Depuis également l'attaque contre le musée juif de Bruxelles l'an dernier, que faire si des gens tirent dans le tas, se demande le patron d'un centre d'art. Depuis Charlie Hebdo, le nombre de visiteurs a chuté de 20% au Grand Palais. Les protections policières et militaires sont pourtant renforcées. Installation de portiques et de détection de métaux, ce que les petites structures n'ont pas les moyens de se payer. Le musée, écrit Le Monde, est bien plus qu'un service public. C'est un lieu éminemment symbolique. Les dernières valeurs un peu fortes et identitaires du monde démocratique, explique le directeur du musée des arts décoratifs.
La société française évolue et les ans qui passent ne seraient plus un problème.
Senior, c'est l'âge d'or, titre d'emblée Le Parisien aujourd'hui en France. Quand bascule-t-on dans la catégorie des plus âgés? À 66 ans, répond un sondage qui montre surtout que le moral des intéressés est plutôt bon. 85% se disent satisfaits de leur vie. La meilleure recette, être entouré, ouvert sur le monde, sortir de sa zone de confort. plus très jeune, pas encore vieux. La preuve, on continue de se marier. On divorce aussi de plus en plus après la retraite.
Deux très jeunes Français à la une de l'équipe. L'un est passionné de danse et de dessin. L'autre fait des études de lettres et joue de la guitare.
Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, champion du monde de danse sur glace. On n'en parle pas très souvent sur RFI, mais ces deux-là sortent vraiment de l'ordinaire. Ils n'ont que 19 et 20 ans. Deux gamins, deux artistes redatent l'équipe qui, par l'émotion dégagée sur la patinoire de Shanghai, ont offert un moment hors du temps. Une comédienne leur a appris à exprimer des émotions sur la glace, offrir l'illusion d'une passion amoureuse, alors que dans la vie, ils sont de simples camarades.
Merci Bruno Faure. Revue de presse à retrouver sur RFI.fr.